16h-17h. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. À partir de plusieurs dates clés de sa vie, il va vous raconter son parcours, ses passions, donc son histoire. Mais les clés d'une vie, ce sont aussi d'autres histoires liées à votre vie. Allez, comme tous les jours, grâce à ces clés, j'ouvre maintenant la porte à vos souvenirs. Il a donné leur première chance à de jeunes journalistes, à de jeunes signatures, à qui il doit peut-être un peu d'argent, mais qui lui doivent beaucoup. C'est grâce au médecin qu'il a pu pendant des années régler bien des problèmes de cachet. Il n'y a pas que le théâtre de l'actualité qui passionne ce journaliste, il a aussi investi un grand nombre de pièces pour passer aux actes. Bonjour Philippe Tesson.
Bonjour Jacques.
Alors donc le principe des clés d'une vie, c'est l'actualité. L'actualité c'est votre théâtre de poche et un cabaret dont on reparlera tout à l'heure. Mais vous avez un parcours étonnant, un long parcours, et on va le résumer à travers des dates clés de votre vie. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 16 mai 1940.
Ah, c'est drôle. Et comment avez-vous trouvé, où avez-vous trouvé ça?
Ce sont nos secrets.
C'est pas dans les livres d'histoire. Ah si, ben pour moi, c'est effectivement une des rares dates clés que je me rappelle, qui date de mon enfance ou de mon adolescence. Le 16 mai 40, mais j'en parle souvent du 16 mai 40, notamment, c'est mon exode. C'est l'exode. L'exode, les gens ne savent pas très bien ce qu'est l'exode. Enfin, on en parle actuellement, mais dans une autre coin de la planète. L'exode, c'est ce qu'on appelle également l'évacuation, c'est-à-dire le départ, la fuite des gens du nord vers le sud quand les Allemands ont envahi la France. Les Allemands ont envahi la France, la Belgique le 10 mai, la France vers le 13 ou 14 mai. Je suis presque limitrophe de la Belgique. Je viens d'un pays de tirage qui s'est... le nord du département de l'Aisne, tout près du département du Nord, et nous sommes, ça marque un enfant, c'est une chose qu'on ne peut pas oublier. J'avais 12 ans, et nous sommes partis, mon père était mobilisé, comme tous les gens de son âge.
Il était notaire, votre père.
Mon père était le petit notaire du village, le notaire du petit village et le petit notaire du village. Oui, c'était un homme délicieux, vous voyez, une petite bourgeoisie de village, dans des pays chaleureux, des pays que j'adore, je suis très attaché à mon pays, follement attaché.
C'est Wasigny,
un
village de 1000 habitants.
Voilà, exactement.
Dans l'Aisne.
Une région qui s'appelle la Thiérache, est une région qui se situe entre le Cambrésis et l'Ardenne, vous voyez à peu près le nord-est du département de l'Aisne. Voilà, et nous sommes partis, c'était très tragique, la famille, la mère qui conduit en général, dans ces cas-là, la mère conduisait la voiture ou la charrette en l'absence du père, on mettait la grand-mère au fond de la voiture, les enfants devant, on se tassait comme vous voulez, il y avait des matelas au-dessus du toit, et on prenait la route vers on ne sait où, enfin nous savions à peu près où, car les pères attendaient en général les familles, dans ces cas-là, les pères étaient mobilisés. Mon père était mobilisé du côté de Nantes, et nous l'avons rejoint au terme d'un voyage très tragique, très difficile, qui a duré 2 ou 3 jours. Comment voulez-vous qu'on oublie ça? On réduit son bagage à des choses qu'on a entassées de façon précipitée dans les valises, et on croise, on dépasse avec cette voiture qui marche très lentement. C'est très, ça a été décrit, il y a des romans et des livres, des livres d'histoire qui décrivent ce long exode qui est absolument inoubliable dans une vie. Voilà pourquoi je me rappelle, car vous, 16 mai, qui peut se rappeler à mon âge une date aussi précise que le 16 mai, et ben c'est ça, c'est l'exode.
Est-ce que vous attendiez cet exode? Est-ce que vous pensiez,
oui,
que les Allemands allaient envahir la
oui.
Pays?
Mais là, attendez, vous êtes trop jeune, vous êtes un enfant pour moi, enfin un grand enfant, qui pouvait penser, écoutez, la guerre a été quand même déclarée en août 39, mais vous savez très bien, les gens savent très bien, les hommes ont été mobilisés, les familles ont attendu, la France entière attendait ce que nous prévoyions et à quoi nous voulions résister grâce à une ligne imaginaire, on sait tout ça. Les villages du Nord étaient très exposés c'est ce qu'on appelait la drôle de guerre, car rien de très important ne s'est passé pendant quelques mois. Et puis un jour, les Allemands ont décidé d'envahir la Belgique, la Hollande et la France. Donc nous l'attendions. Nous avions fait tout ce qu'il fallait. Nous avions préparé les choses, c'est vrai. Mais enfin, c'est arrivé tellement vite tellement vite, c'est un ouragan cette guerre. Ça n'a pas été une guerre d'ailleurs, ça a été une chevauchée rapide du nord au centre de la France, à part d'une armée allemande qui était équipée d'une manière extraordinaire et j'ai connu ensuite où nous sommes rentrés, nous avons évacué, disions-nous, nous avons évacué en Vendée, comme beaucoup de gens du nord, et nous sommes remontés 3 mois après, nous avons trouvé notre village occupé, notre maison occupée, la commandanture s'était installée dans ma maison, nous avons partagé cette maison pendant 4 ans et demi et voilà, et nous avons vécu c'était très oppressant, c'était très tragique pour une sensibilité d'enfant, mais la situation de ce pays et la rapidité de cette équipée a fait que nous n'avons pas connu les épisodes tragiques de la guerre. Nous étions paradoxalement protégés d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire ? Couverts par cette occupation, par l'occupant qui vivait avec nous, qui déjà avait considéré qu'il avait gagné la guerre et qui nous considérait comme des vaincus et qui finalement nous traitait comme ils auraient traité leur famille. Voilà.
Et ce qui s'est passé aussi en Belgique, parce qu'elle a été envahie le 10 mai, c'est que le gouvernement ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire que les pères de famille étaient mobilisés, les adolescents, des paysans, des anciens de la guerre d'Espagne, ça faisait pas une armée. Et c'est pour ça que les Allemands sont passés, mais vraiment comme très facilement.
Oui, enfin ils sont passés parce que nous n'étions pas préparés, parce que nous étions gouvernés par une armée pleine de gens, enfin, la péritie des gouvernements et des chefs militaires, enfin on le sait assez, oui. Ça était total. Là, imaginons, était une passoire, enfin c'est même pas une passoire, ça n'existait pas, ça ne servait à rien, strictement à rien. Non, la France est totalement responsable de sa défaite.
On est d'accord. Et la Belgique, les gouvernants assurer qu'une armée de 550 000 hommes courageux, plein de volonté, ça éliminerait les Allemands. C'était totalement faux.
Une utopie. Oui.
Exactement. Alors, vous faites vos études, et vos études, vous les faites au collège de Cateau-Cambrésis, qui n'est pas loin de votre village.
Parmi vos camarades de classe, il y a quelqu'un qui a réussi ensuite, c'est Pierre Mauroy.
Oui, et c'est vrai, c'est un très beau souvenir. C'est un souvenir lointain, mais un souvenir fidèle. Mauroy était originaire de mon village, d'un village en tout cas voisin. Son père était instituteur de ce village, mon père était petit notaire. Enfin, il y avait une proximité sociale, affective, très très géographique, très très forte. On s'aimait beaucoup et nous avons passé 3 ans ensemble au début de la guerre, 1940 à 42. Nous avons passé sur les bancs de l'école de la petite ville voisine, qui est le Cateau-Cambrésis. Très jolie petite ville, c'est la patrie de Matisse.
Oui, il y a le musée Matisse d'ailleurs.
Il y a le musée de Matisse, oui.
Où il y a d'ailleurs un plafond qu'il avait fait dans sa chambre pour ses petits-enfants, qu'on voit dans ce musée.
Exactement, quelle culture. Pour moi c'est facile puisque c'est mon pays. Oui. Mais voilà, et le musée est d'ailleurs très intéressant. Enfin bref, et donc nous étions très, très, très amis, des petits copains de lycée, et puis des copains de village. On a beaucoup joué ensemble. Et nous sommes restés très fidèles l'un à l'autre toute la vie. Et nous avons suivi des parcours différents, avec un point commun, quand même un point d'intérêt commun, qui était la politique. Mais nous ne nous entendions pas du tout sur le plan politique. Il était à gauche, moi j'étais à droite, je suis resté à droite, il est resté à gauche. Enfin, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, de toute façon. Et puis, quoi qu'il en soit, il est mort. Et voilà, toute la vie, nous nous sommes vus. Et lorsque je dirigeais le quotidien de Paris, dans les années 80, il est devenu, comme chacun sait, Premier ministre. Nous avons gardé pendant tout son mandat des relations très étroites. En général, une fois par mois à peu près, j'allais dîner le dimanche soir à Matignon avec lui, avec des amis de notre pays, enfin, etc. C'est très, très agréable. C'est vraiment un ami très cher. J'appréciais beaucoup sa générosité, sa sincérité, son honnêteté, enfin, beaucoup de son cœur, beaucoup de qualité. Et moi, j'étais assez vif, pas méchant, mais enfin, j'étais un peu impertinent. Et je me suis amusé de lui. J'aime beaucoup m'amuser de mes amis. C'est très agréable. Mais il me pardonne. Et je me rappelle un soir, je faisais à l'époque le club de la presse le dimanche soir sur Europe 1. Vous rappelez cette émission, et Escabache invite Mauroy un dimanche, et nous décidons avant qu'il n'invite, qu'après l'émission j'irai dîner avec lui à Matignon le soir un peu tard. Et voilà, le débat se passe bien, mais enfin il n'est pas très bon. Mauroy n'était pas très bon dans les débats avec les journalistes. Il était plein d'inhibition, il était timide, il était réservé, il avait peur, il était pas bon, il était très intériorisé, bon. Donc il fait un assez mauvais débat. Moi je suis assez agressif avec lui, il me le pardonne, puis c'est notre métier. Ça se passerait très bien. Bon, le débat est vif et amusant. Avant de le rejoindre à Matignon, je fais rapidement mon éditorial du soir au quotidien de Paris et je titre la une du journal. Et bon, un peu, enfin, de manière un peu taquine, pour ça, comme ça, je titre, je trouve un assez bon titre, je trouve, excusez-moi, je suis un peu fier de moi pour ça, je titre Europe 1, Mourois 0. C'est un titre amusant.
Oui.
Et j'arrive à Matignon avec l'épreuve de la une du journal. Et je, voilà, et je lui, j'arrive, je me rappellerai toute ma vie, c'est un souvenir absolument, j'arrive à ça à manger, et je lui dis, tiens, je t'ai apporté l'épreuve de mon journal de demain, et il voit, gros titre, Europe 1, Mourois 0. Et au lieu de m'engueuler, ou enfin, je sais pas, de se fâcher exactement, mais je savais qu'il réagirait comme ça, il me prend dans ses bras, il éclate de rire, il devient tout rouge, comme il faisait toujours. Et avec tellement de générosité, il me prend dans ses bras, il riait comme un fou. Ce souvenir-là, je ne l'oublierai jamais. Voilà, c'est anecdotique.
Oui,
je
mais c'est
vous
important.
Ennuyez avec ça, mais je suis un peu bavard, excusez-moi.
Non, 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 au contraire, on vous écoute avec passion. Non, mais il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont passées dans votre vie, et en dehors de l'école, en dehors de tout ça, vous avez été fonctionnaire aussi. Fonctionnaire, vous auriez pu être à l'Assemblée nationale, vous avez travaillé à l'Assemblée nationale pour organiser des débats, pour faire la synthèse de débats. Et puis vous avez fait beaucoup d'autres choses aussi, mais ça on va reparler dans quelques instants.
Fonctionnaire, c'est beaucoup dire, j'étais fonctionnaire à l'Assemblée, c'est-à-dire j'ai fait mes études assez longues, et je suis entré à l'Assemblée après avoir passé le concours des secrétaires des débats parlementaires, c'est-à-dire les gens qui font le compte-rendu analytique du débat à mesure que se déroule le débat. C'est pas les débats du journal officiel, c'est autre chose. C'est le compte-rendu analytique, c'est réservé à la presse et aux parlementaires. Voilà, c'est un métier qui prépare très fort au journalisme.
Voilà, et ben ça tombe bien, parce que dans quelques instants, on va reparler de journalisme à travers une autre date, Philippe Tesson, le 15 juin 1968. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Tesson.
16h-17h, Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Tesson. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 15 juin 1968. Alors, je vois votre œil inquiet, je vais vous aider parce que c'est pas facile à trouver. J'ai trouvé à cette date la diffusion à la télévision d'une émission sur les journalistes. On voit pour la première fois à la télévision Philippe Tesson dans la rédaction de Combat. Vous avez un petit blouson, vous avez votre équipe autour de vous et vous distribuez les sujets. C'est une émission qui est passée ce jour-là.
Oui, mais comment m'en souviendrais-je?
Ben oui, mais
elle n'a rien de particulier.
Si, elle a de particulier que ça permet de voir un homme qui est un directeur de journal et qui distribue toutes les sujets à des gens en disant il faut dramatiser
oui.
Ça.
Oui, comme font tous les rédacteurs en chef de jour. Ben oui, c'est pas exceptionnel pour moi le cas.
Non, mais ça veut dire que vous êtes devenu journaliste et que vous êtes maintenant le patron de Combat.
Mais je l'étais depuis longtemps.
Oui, depuis 60.
Ah oui.
Mais c'est la première fois où on vous voit à la télévision.
Ah peut-être, où vous m'avez vu.
Dans les archives, c'est la première séquence qui existe.
Mais j'ai fait de la télé avant.
Oui.
J'ai fait vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. Mais je me considère pas vraiment comme un homme de télé. J'ai fait beaucoup de télé, mais je suis pas très. Je préfère m'exprimer, si vous voulez, à l'écrit qu'à la télé. J'aime beaucoup la radio, en revanche. Et je me rappelle avoir fait les premières émissions, les premiers. Vous savez avec qui j'ai fait les premières? Un garçon que vous avez connu parce que vous avez été à RTL.
Oui.
C'était. Comment s'appelait-il? J'adorais ce type. Il est mort. Dès les années 62, quand j'étais à Combat, Thévenin.
Oui, Thévenin.
Raymond
Thévenin.
Et je me rappelle, et un jour je suis allé voir une exposition UNESCO, je sais pas si je peux vous...
Oui, on peut tout
livrer
dire.
Des anecdotes,
oui.
Non, elles sont peut-être pas intéressantes. Je me rappelle l'autre jour, il n'y a pas très très longtemps, ah mais c'est une anecdote super, si on avait le temps,
j'ai
votre émission, je vous raconterai, elle concerne UNESCO, cette anecdote. Un jour, je suis entré dans une exposition UNESCO à la Bibliothèque Nationale, il n'y a pas très très longtemps, quelques années, et j'entre dans l'exposition et j'entends ma voix. Ah bon? Mais vraiment ma voix. Mais ma voix, le souvenir de ma voix jeune. Alors je vais très rapidement vers l'endroit où ma voix existe. Et j'entre dans une petite studio de télévision comme il y a des expositions. Et figurez-vous que je vois une émission dans laquelle je suis. Je me reconnais à peine. Et j'ai demandé, là, c'est 1962. Je suis autour de Jean Kélévitch, Pierre-Marc Abru, je ne sais qui encore, le pivot de l'époque. Et je fais un débat sur UNESCO. UNESCO. Et je vois en image, nous sommes assis sur des chaises de fortune avec une table basse absolument ridicule. Nous fumons tous comme des... Nous buvons du whisky, etc. Le sûr, ça va beaucoup. Bah, tout ça pour vous dire que la télé, je l'ai faite relativement tôt, c'est-à-dire en 60. Alors c'est drôle que vous... Alors oui, vous êtes en train de me dire que c'est la première fois qu'on voit une conférence de rédaction d'un
journal. Exactement.
Ah oui, peut-être. Oui, peut-être.
Car vous êtes à l'époque rédacteur en chef de Combat, et c'est là où je veux en venir. Comment devenez-vous journaliste, Philippe Tesson, et comment devenez-vous rédacteur en chef de Combat ? Vous arrivez un jour rue du Croissant, pas du tout pour être rédacteur en chef.
Je voudrais aller vite pour ne pas lasser l'auditeur. Écoutez, très classique. Je suis à l'Assemblée nationale, je fais le contrôle d'éthique, et au contrôle d'éthique, beaucoup de journalistes viennent prendre les premières informations sur le débat en cours. Et parmi les journalistes qui viennent me voir, il y a le fameux Maurice Clavel, qui a accompagné beaucoup ma vie, Roger Stéphane et Pierre Boutan, c'est-à-dire trois journalistes, qui sont les éditorialistes de Combat, et qui se lient à moi, on sympathise. J'ai 30 ans, mais ils sont un peu plus âgés que moi, mais on sympathise, quoi, et c'est tout. Et peu à peu, ils viennent souvent au compte-rendu analytique, on est dans les périodes troublées de la République, dans les années 58, et ils me disent, mais pourquoi faites-vous, on se voyait beaucoup à l'époque, pourquoi faites-vous, ouais, écoutez, vous avez un profil qui correspond à quelqu'un qui nous intéresse et que recherche Henri Smadja, le propriétaire de Combat, qui est d'origine tunisienne, qui ne trouve pas un rédacteur en chef qui soit un peu à l'image de quoi vous êtes, c'est-à-dire un jeune journaliste un peu cultivé, excusez du peu, jeune, très français, proche des sensibilités, pour être un peu son porte-voix. On vous présente à lui, il me présente à lui, et quelque chose se passe, une espèce d'un coup de foudre entre ce vieil homme oriental tunisien et moi-même, qui suis vraiment un peu l'archétype de du bon jeune homme français, et il me propose, nous bavardons longuement, on se revoit, et il me propose de prendre, ce qui est une gageure, la rédaction en chef de Combat. Je n'étais pas journaliste, mais j'avais une culture, une formation qui me permettait, qui justifiait ce pari qu'il faisait. Et ça a marché.
Et surtout, Philippe Tesson, moi quand je vois cette conférence de rédaction, il y a une sympathie, une décontraction dans les sujets qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Vous distribuez, j'ai besoin de temps de ligne pour ce sujet, on va avancer vers ça. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, c'est une autre époque de journalisme.
Tout à fait, j'aimerais bien faire cette image. Oui, voilà, j'ai fait ça toute ma vie. Et je fais ça aujourd'hui, j'ai fait ça pendant 50 ans dans les différents journaux que j'ai dirigés. Et puis ensuite, je l'ai fait maintenant au théâtre, c'est de la même façon.
Oui, mais c'était une époque où tout était possible dans la presse.
Tout est encore possible.
Oui, mais
il faut résister.
Voilà, il n'y avait pas Internet, mais il y avait d'autres façons.
Non, bien sûr, c'est idiot ce que je dis, tout n'est plus possible, bien évidemment. Mais on peut encore essayer d'arriver, mais vous-même finalement, vous êtes quand même resté dans la vieille culture classique de la presse d'autrefois.
Oui.
Mais enfin, tout a changé, nous sommes d'accord.
Mais est-ce que justement le fait d'avoir vécu cette époque-là, c'est un atout pour vous aujourd'hui de cette culture, Philippe Tesson?
Je crois, c'est un atout qui est compensé par une immense carence. Je n'ai pas la sensibilité du numérique, vous comprenez, je n'ai pas la sensibilité de la culture contemporaine. Je reste un journaliste de la plume, et avec sa culture de la plume, et je ne me sers jamais, pourtant je fais encore des journaux, des articles dans les journaux, mais je l'ai fait à l'ancienne, et c'est un atout. Quelle est ma supériorité sur les autres, c'est d'être le plus vieux. D'ailleurs, je suis très vieux, vous savez, j'ai 90 ans, c'est quand même beaucoup, et alors qu'aujourd'hui, à 65 ans, en général, on arrête de travailler, il n'y a plus de journalistes de 90 ans. Alors je suis une mémoire, je suis un monument historique, et quand on a besoin de me visiter, d'une référence qui est considérée par un héritage, c'est vers moi qu'on va. Voilà, c'est tout.
Je vois très bien. Mais alors justement, vous n'avez pas fait d'école de journalisme. Alors
pas du tout.
Aujourd'hui, pour être journaliste, il faut faire une école et 4 ans d'études.
C'est ce qu'on fait. Mais il y a encore des exceptions.
Vous avez fait aussi beaucoup de débats, et j'ai retrouvé un débat étonnant, c'est le lendemain de la démission du général de Gaulle, vous faites un débat à la télévision avec Jacques Fauvet, avec René Andrieux, beaucoup de journalistes, et vous êtes déjà très virulent, Philippe Tesson.
Je suis plutôt vif.
Oui.
Oui, je suis vif, je suis très sincère, très transparent, je ne suis pas derrière-pensée, je dis ce que je pense. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours créé mes journaux, pour la plupart en tout cas. On peut pas dire ce qu'on pense dans un journal qui ne vous appartient pas. Voilà. Souvent d'ailleurs, on ne dit pas ce qu'on pense dans un journal qui vous appartient. Mais ça, c'est parce que c'est une vision mercantile de la presse, c'est pas la mienne. Voilà, j'ai créé des journaux qui n'ont jamais atteint des dimensions de diffusion énormes, mais dans lesquels je disais à peu près ce que je pensais.
En tout cas, la presse, c'est votre passion. On va en reparler dans quelques instants avec une autre date, Philippe Tesson, le 4 avril 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Tesson.
16h, 17h. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Tesson. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 4 avril 1974. Ça vous dit forcément quelque chose, Philippe Tesson?
Forcément, c'est une date historique d'ailleurs. J'avais déjà un petit groupe de presse, j'avais créé le quotidien du médecin avec ma femme, et 2 ans avant.
Et pourquoi avoir voulu lancer un journal? C'est un risque. Bon, c'est la fin de l'âge d'or de la presse, il y a des quotidiens qui disparaissent, et vous lancez un journal, Philippe Tesson. C'est un risque?
Ah bah oui, mais j'adore. J'ai bien repris un théâtre. Oui. Non, j'ai toujours fait ça. J'ai créé le quotidien du médecin, c'était un risque.
Mais justement, le quotidien du médecin, quand vous l'avez créé quelques années avant avec votre femme, personne n'y croyait. Personne. C'est étonnant.
Personne. Les gens rigolaient. Mais quand j'ai repris le poche, les gens ont rigolé. Mais je comprends, ça n'est plus dans la norme. Je ne suis pas dans la norme, c'est pas ma faute, c'est biologique, c'est mon gène. Ça n'est pas dans. Je fais des choses qui ne sont pas dans la norme. C'est pas génial. Je n'ai aucun talent particulier. Sauf un gène qui fait que je ne suis pas dans la norme. Alors on m'a donné des conseils négatifs. On m'a dit ne fais jamais ça. J'ai fait ça. Parfois j'ai raté un peu, mais parfois j'ai réussi. Et le quotidien de Paris. Et quand j'ai senti...
Justement, le quotidien du médecin, comment c'est né, Philippe Tesson? Comment est née cette idée que personne n'avait eue?
J'ai connu une femme. Non, mais c'est très bête. Je dis les choses bêtement. Je dis les choses comme il ne faut pas les dire, mais je m'en fous. C'est comme ça. Si ça ne plaît pas aux gens, ils ferment la radio.
Ils écoutent, au contraire.
Je rencontre une jeune fille que je trouve extraordinaire. Je n'ai pas de sentiment. Je la trouve extraordinaire, c'est tout. Elle est médecin. Elle termine son internat. Nous entendons bien. Moi, j'ai lu Nietzsche, je sais qu'un mariage sans un objectif commun, ça n'a aucun sens, et ça sera figure. Donc je l'épouse. Au moins, nous avions un objectif. Je la convainc qu'il n'y a pas de journal d'information médicale. Il y a des journaux médicaux, mais ils ne font pas d'information. Moi, je suis intoxiqué par l'information. Je suis journaliste, et c'est tout. Telle chose est arrivée, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et c'est comme disait La Fontaine. Donc, je la persuade que nous avons une occasion formidable d'apporter au corps médical et à tout ce qui l'entoure, toutes les professions de santé, un instrument d'information quotidien. La santé est capitale. Les gens ne pensent qu'à ça. Les médecins ont un rôle extraordinaire dans ce pays, comme dans tous les pays du monde. Je trouve ça superbe. Ils n'ont pas de journaux. On crée un journal et on remplit ce journal. Quand nous avons vendu le quotidien du médecin, c'était un quotidien qui faisait 80 pages par jour. Il brassait une actualité sociale, médicale, technique, scientifique, culturelle, économique, abondante. Je suis très intéressé par la segmentation de la presse. C'est un problème qui m'a toujours fasciné. Pourquoi ne pas... Si j'avais voulu, j'ai souvent pensé, j'aurais continué à faire le métier de presse, mais en fragmentation. J'aurais adoré faire le quotidien de l'architecte, le quotidien de l'enseignant.
Vous avez fait le pharmacien.
J'ai fait le maire.
Tout le monde.
Oui, j'adore ça. Mais j'adore aussi faire un journal généraliste. J'adore tout, quoi, en fait.
Mais vous avez ouvert la voie avec les médecins, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de journaux de médecins.
Oui,
maintenant, ça marche.
Il y a trois quotidiens, maintenant.
Et maintenant, il y a même le Canal 33 à la télévision.
Absolument.
Où un monsieur qui s'appelle Pierre Bonnier a eu l'idée géniale dans un salon d'attente de médecins. Il s'ennuyait. Il dit, mais pourquoi on ne met pas la télévision?
Exactement.
Et il a créé une chaîne de télévision pour les médecins. Et ça marche formidablement.
Tout à fait. Alors, ça a marché très, très bien. Mais je m'entendais parfaitement bien avec ma femme, qui est morte il y a 3 ans. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, fait énormément de choses ensemble. Nous avons des enfants, d'ailleurs. Et voilà. Et ça a marché. Et après, moi, ça m'intéresse. Personnellement, je préfère la politique et la culture à la médecine. Je ne suis pas un expert en matière médicale, mais ça a marché. Et après, il y a eu le quotidien de Paris, après, il y a eu ceci, là, etc.
Mais alors, le quotidien de Paris, justement, c'est un événement, c'est un journal très difficile à faire. Il n'y avait pas de pub, la diffusion n'était pas toujours facile, mais toutes les grandes signatures de la presse d'aujourd'hui sont un jour ou l'autre passées par le quotidien de Paris,
oui,
Philippe Tesson.
Oui, oui.
Vous avez trouvé des gens incroyables.
Oui, j'ai trouvé des gens merveilleux que j'ai engagés sur des critères très particuliers. Il fallait une complicité particulière. Jamais un critère idéologique. Contrairement, ce pays est malade il est en guerre civile perpétuelle, je trouve tellement con, tellement insupportable. Et j'ai voulu casser ça, à ma façon très très modeste. Mon entreprise, je pense souvent à lui, je voyais qui je veux dire, confusément, non pas courant, mais ce que j'aime chez Macron, c'est cette démarche. Voilà, je m'en fous, gauche-droite, je suis à droite comme ça, comme on appelle ça la droite, et je suis également à gauche, je n'ai rien à faire, et j'ai créé ces journaux, et surtout j'ai réuni des gens pour faire mes journaux sur ce principe-là. J'ai vraiment eu des trotskistes, j'ai eu des marxistes, le problème n'était pas celui-là. Alors évidemment, dans la rubrique politique de mes journaux, il y a toujours eu une espèce de rigueur, mais en fait il y avait une ouverture extraordinaire, une très grande diversité d'opinions.
Éric Zemmour a débuté chez vous.
Absolument.
Catherine Pégard, qui est patronne du château de Versailles, qui a été au point à débuter chez vous, et Claire Chazal a débuté chez vous, Philippe Tesson.
Claire Chazal, j'ai repéré Claire Chazal quand elle était tentée par ce journal, parce qu'il y avait un ton, il y avait une légèreté, il y avait quelque chose de vif. Elle a été tentée, elle était candidate à sa joie, elle sortait d'HEC, et j'ai vu une personnalité extraordinaire, totalement différente parfois de l'image qu'elle peut donner. Dans l'esprit des gens, Claire Chazal est une espèce d'icône idéale qui représente la perfection faite femme. C'est pas ça du tout. Quand elle avait 20 ans, et d'ailleurs j'ai tout de suite senti l'intérêt qu'elle portait à l'économie, car elle était, en fait c'est une économiste, hein, Claire Chazal, j'ai vu son autorité. Elle a quand même été rédactrice en chef de la rubrique économique du quotidien de Paris pendant 7 ans.
Et vous pensez qu'elle ferait carrière à la télé ensuite, comme ça, en faisant
le
journal ?
Oui, parce qu'elle avait un fantasme, elle avait une nostalgie. C'est une fille très intéressante. D'abord une volonté, ensuite une ambition, ensuite une rigueur métallique, quelque chose d'absolument extraordinaire.
Ça veut dire que vous êtes fier de tous ces gens qui ont réussi.
Je suis pas fier. J'étais heureux. Ça m'excitait. J'adorais. Et fier, je sais pas. Je m'en fous. Ma fierté.
Ils ont réussi grâce à vous et vous êtes un peu leur père spirituel.
Non. Et je l'ai. Comme disait Nietzsche, qui disait ça encore lui. D'ailleurs. Ils sont devenus ce qu'ils étaient, un peu grâce à moi, si vous voulez. J'ai aucun mérite, j'aimais ça. J'adore la camaraderie, j'adore le groupe, j'adore le travail collectif, j'adore le bonheur d'être ensemble. C'est très agréable d'être chez, je crois, mais j'ai aucun mérite. Parce que je suis insupportable en même temps. Au fond, je suis autoritaire, je suis emmerdant, je suis paternaliste, je suis pas toujours très agréable, je me mets dans des colères folles. Mais voilà, je suis comme ça. Je suis très moyen intellectuellement.
Oui, non, vous faites beaucoup de choses quand même, mais ça ne vous empêche pas de travailler, au contraire, et de travailler dans la culture.
Faire du théâtre aux poches, oui. C'est un rêve.
On va en parler tout à l'heure. Mais là, je reviens quand même au quotidien de Paris, parce que Henri Chapier, qui est connu grâce à la télévision,
il est merveilleux.
Et lui aussi, il était à combat, il vous a suivi. Lui aussi, ça fait partie des piliers du quotidien de Paris.
Ah oui, tout à fait. Très premier cercle. D'ailleurs, il a beaucoup contribué. Il m'a quand je suis entré à combat comme rédacteur en chef, sans avoir jamais mis les pieds dans un journal, c'est Chapier. Il y avait des gens déjà. Il y avait notamment Chapier. Il a beaucoup contribué. Chapier aurait pu prendre la rédaction en chef de combat. Il s'est agglié devant moi parce qu'il n'intéressait pas, puis c'est trop de travail. Mais Chapier, c'est très important. Chapier, sensibilité extraordinaire, insupportable, caractériellement, mais merveilleux, adorable, c'est un ami. Mais j'aime bien me battre avec les gens que j'aime. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
J'aime bien ces confrontations d'où ils sortent toujours quelque chose de très positif.
Et il y a eu d'autres gens célèbres. Moi, je sais par exemple que Bernard Mabille vous doit sa carrière, car il a commencé au quotidien de Paris. Un jour, il fait un article sur Thierry Leluron. Thierry Leluron l'appelle parce qu'il n'aime pas l'article. Et c'est ensuite que Bernard et Thierry Leluron ont commencé à collaborer ensemble. Sans le quotidien de Paris, ils n'auraient jamais travaillé ensemble.
Je pense, oui. Mais non, il aurait eu un être de qualité, trouve toujours le chemin qui lui permet d'assumer sa qualité. S'il s'y prête, s'il met ce qu'il faut d'effort, de volonté, de travail.
Il y a aussi quand même un scoop raté. Le seul scoop raté que j'ai trouvé dans l'histoire du quotidien de Paris, c'est la fausse mort de Marcel Dassault.
Oh, c'est incroyable.
Ça, qu'est-ce qui s'est passé ?
Je vous raconte ?
Oui.
Il faut que j'aille vite parce que je veux perdre du temps. D'ailleurs, je veux perdre du temps. Non, mais je suis un peu fatigant à écouter.
Non, passionnant.
C'est comme ça. La vie va bien, le quotidien de Paris vis-à-vis. Comme tous les soirs, je pars vers 9h après avoir fait l'édito et je laisse la responsabilité du journal à un rédacteur en chef et à un rédacteur de permanence comme dans tous les journaux du monde. Je pars. Pendant mon absence, le rédacteur en chef de permanence avait changé complètement, c'est fait pour ça, rédacteur en chef de permanence la nuit. Il avait complètement restructuré le journal. Il avait refait une une avec une énorme photo, une dernière page avec une biographie. Marcel Dassault est mort. Hein? Oh, mais Dassault, mais mon père est pas mort. Qu'est-ce que c'est que ça dit? Alors, immédiatement, les radios, les télévisions, la maison est envahie. La honte de ma vie, la fausse information de Ningesser et Colli, du petit Parisien d'autrefois. Alors, je fais mon rédacteur en chef de permanence reçoit, après mon départ au théâtre, un coup de téléphone. Un informateur voisin de Dassault, boulevard Monoury, et lecteur fidèle et sympathique du quotidien de Paris, nous annonce à mon téléphone au journal et annonce à mon rédacteur en chef de permanence que Marcel Dassault, son voisin, est mort. Ce type était un escroc. Voyez-vous, il voulait faire un coup de bourse, et s'il a fait, ça a été très rapide. D'ordinaire, lorsqu'on dans un journal, on a une information aussi formidable que celle-là, on recoupe. On appelle, on recoupe. Et mon rédacteur en chef de permanence était le frère d'un important ministre du gouvernement. Il appelle immédiatement son frère. Je ne vous dirai pas qui il est. Je vous le dirai, mais en particulier. Et il appelle son frère. Et la femme de son frère répond à ce garçon, rédacteur en chef de permanence. Ah, mais je comprends tout, mais bien sûr, là, mais quelle horreur! Il ne me l'a pas dit, nous dignons, il a eu un coup de téléphone, il a pris son chapeau, son par-dessus, il est mort, il est parti, et il ne m'a pas dit la raison pour laquelle il était parti. Mon rédacteur en chef de permanence se contente de ce recoupement pour prendre cette information comme. Nous avions au journal une viande froide d'assaut, nous avions une page prête pour la mort comme on a dans les journaux, et on commet cette erreur. Vous avez compris?
Oui.
C'est épouvantable.
C'est épouvantable, mais ça s'est arrangé ensuite. Je sais que Marcel Dassault vous a pardonné. En tout cas, c'est un souvenir de plus du quotidien de Paris.
Non seulement il a pardonné, mais il a fait un chèque vous avez eu le lendemain?
Le lendemain.
Il a pris 1000 abonnements au quotidien de Paris sur Europe 1. Vous ne connaissez pas ça?
Si, si. C'était une assurance vie. On se retrouve dans quelques instants avec Philippe Tesson et une autre date très récente, le 26 mai 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Tesson.
16h-17h, Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Tesson. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 26 mai 2017. C'est la première au Théâtre de Poche de Colette et l'Amour, un cabaret littéraire dont vous êtes à l'origine et dont vous êtes l'auteur, Philippe Tesson. Je crois que c'est une première.
Non. Non, je suis pas auteur de théâtre. Je suis très théâtre parce que ça fait 60 ans que je vais au théâtre tous les jours, puisque j'ai fait la critique dans le Canard Enchaîné, puis après dans l'Express, maintenant dans le Figaro Magazine depuis 25 ans. C'est mon métier, le théâtre. Un métier secondaire.
C'est une passion.
Ah, irrésistible. Importante, à tout point de vue. C'est pas pour me marrer tous les soirs. C'est une passion pour ma culture personnelle et surtout pour c'est comme une... c'est un guide de vie pour moi, le théâtre. C'est une grille de lecture aussi du monde. J'aime le théâtre intellectuellement, puis je l'aime comme représentation de la réalité ou surtout de l'illusion. Enfin bref.
Donc là, c'est le vendredi et le samedi à 20h30, du 26 mai au 1er juillet. Colette et l'amour, un cabaret littéraire que vous avez conçu et que vous animez. Qu'est-ce que c'est, Philippe Tesson?
J'ai repris ce théâtre, moi, le théâtre de Poche, il y a 5 ans. Et je m'y intéresse beaucoup aux formes de théâtre. Et j'essaie de réhabiliter une chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui est le cabaret. C'est pas du tout ce qu'on croit, le cabaret. Le cabaret, c'était une forme théâtrale qui date du Moyen-Âge, qui est très intéressante, qui met en action, en interactivité avec vous, le public, qui n'est pas une lecture, qui n'est pas une création illusoire, mais qui est un reflet distrayant de la réalité avec les enseignements sociaux qu'on peut en tirer. Enfin, je suis un peu vaseux, mais...
Non, mais c'est clair.
Ouais. Alors, j'ai créé l'an dernier un cabaret véritable, ce qui est le bœuf sur le toit pour parler de la création littéraire après la guerre de 14-18, c'est-à-dire autour de Cocteau, etc. Et là, j'aurais décidé cette année, j'en fais un par an. J'en ai d'autres. Il y en a d'autres que mes collaborateurs font ici. Il y a plusieurs cabarets. Il y a plusieurs cabarets aux poches. Colette, c'était un. J'ai m'intéresse beaucoup à Colette. D'abord comme écrivain, mais surtout comme emblème d'une espèce de femme qui est pas du tout en voie de disparition, qui se réunissent autour d'un problème qui est d'abord important à mes yeux, puisque ça renvoie à la théorie du genre, le problème de la bisexualité. Ça m'intéresse. En même temps, alors, le cabaret, c'est faire revivre un personnage comme Colette, faire revivre la pensée qu'elle a poursuivie toute sa vie, peut-être même faire revivre la dimension tragique de sa vie, car c'est le cas pour Paulet. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est une évocation poétique et libre et littéraire, bien sûr, mais en même temps affective, en même temps d'un personnage, d'une situation. Alors j'ai deux, trois acteurs autour de moi. J'ai un pianiste, parce que j'aurai un accompagnement musical dans un cabaret. Je raconte la vie de Colette avec une vieille amie et moi, c'est Elisabeth Quin. Vous savez qui est Elisabeth Quin,
journaliste bien connue.
Journaliste bien connue, on est très copains, on a beaucoup fait de choses ensemble, et elle a une personnalité dont la sensibilité rejoint celle de Colette. Et puis Judith Magre, qui est une vieille amie, qui est merveilleuse. Je ne sais pas si tout le monde connaît Judith.
Une grande actrice que tout le monde a vue un jour ou l'autre.
Une immense artiste. Bon, on a tous les deux, enfin, je ne devrais pas dire des choses aussi inélégantes, mais enfin, on a tous les deux le même âge, on a la même sensibilité, et on s'amuse comme des fous en créant, en racontant le mieux possible, avec le plus d'anecdotes signifiantes possible. On raconte le parcours de Colette et la pensée de Colette et le rapport entre Colette et la amour, qui est un rapport très particulier. Voilà, c'est très bien. J'ai tout dit.
Oui, mais en même temps, Colette avait fait scandale avec un spectacle qui s'appelait Rêve d'Égypte, où il y avait l'embrasser une femme au Moulin Rouge à l'époque. C'est ce qui a déclenché le véritable scandale avec Colette.
Le premier scandale, Rêve d'Égypte, elle jouait une momie. Donc elle était habillée avec des bandelettes.
Oui.
Des momies. Et puis voilà, la pièce est absolument ridicule, c'est complètement kitsch. Mais enfin, on est dans les années 1900, c'est une époque formidable. Enfin, avec ses défauts, évidemment. Notamment son mauvais goût esthétique. Et voilà, alors elle est habillée. Elle aimait la nudité, elle aimait la liberté, elle aimait le musical, elle aimait s'exhiber. C'était un peu particulière. Alors elle avait évidemment choisi cette façon de s'exhiber qui était extraordinaire. Parce que j'imaginais, qu'est-ce que c'est les bandelettes? Les bandelettes, c'est fait avec une espèce de tulle transparent qui cache la vérité du corps jusqu'au moment où on la déroule. Et alors la partenaire de Colette déroulait sur la scène du théâtre les bandelettes jusqu'à ce que ça teasing, vous voyez, c'est excitant pour les mecs. Et puis à un moment donné, il n'y a plus qu'une couche de tulle. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Et cette partenaire, c'était Missy, une femme.
Qui était l'amie, femme qui était très amoureuse, qui était une homosexuelle, qui était très amoureuse de Colette. L'homosexualité de Colette est beaucoup plus compliquée que celle de Missy. Colette aimait les hommes, essentiellement. Elle aimait les hommes. Mais il lui fallait, à l'amour des hommes, il fallait ajouter la tendresse des femmes. Et c'est ça le problème de Colette. Et beaucoup de femmes sont comme ça.
Oui, mais ce spectacle a fait scandale, puisque le lendemain, le préfet de police l'a interdit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quelques jours plus tard, le Moulin Rouge a remis à l'affiche un autre spectacle dont le titre était La Feuille de Vigne. C'est assez drôle. Ils ont récidivé, mais là, ça faisait moins scandale.
Absolument, oui.
Alors, c'est un luxe de faire du théâtre aujourd'hui. Vous avez acheté un théâtre, un petit théâtre de poche. Pourquoi, Philippe Tesson, alors que vous avez déjà beaucoup d'activités?
Mais écoutez, mon activité de presse, c'est quand même ralenti depuis que j'ai plus de journaux. Avoir des journaux, c'est quand même autre chose que d'écrire dans un journal. Avoir des journaux, c'est harassant. Bon, peu à peu, à mon âge, c'est normal. Je suis disqualifié. Même mes sensibilités sont quand même très archaïques. Il y a des choses que je comprends plus. Je vais pas juger l'actualité avec un regard de centenaire ou quasiment. Ce serait ridicule. Trop des sensibilités de la jeunesse m'échappent. Il faut bien dire, je ne suis plus dans le coup. Il y a des choses que je ne comprends plus. Je me sens disqualifié pour porter un jugement public et affirmatif à l'âge que j'ai et avec la culture que j'ai. En revanche, le théâtre, c'est toute une autre activité. Le théâtre est une médiation très, très particulière. Je ne joue pas le théâtre, vous comprenez, j'ai des acteurs. C'est tout à fait différent, sauf les cabarets que je fais. Mais le cabaret est un genre de divertissement tout à fait mineur. Je ne joue pas dans les spectacles
oui,
que
mais
je monte.
C'est un risque de prendre un théâtre, effectivement.
Mais tout, on a parlé déjà du risque. Tout est un risque. Le risque, il faut le calculer et avoir l'audace de le prendre. Et évidemment, ne pas considérer... C'est le problème de l'argent, vous comprenez. Bien sûr que... Mais moi, je suis pour... C'est pour ça que je suis à droite. Excusez-moi, vous ne me posez pas la question politique. C'est pour ça que je suis à droite. C'est peut-être le seul mérite de la droite, c'est que c'est elle qui prend les risques. Pour le reste, je m'en fous de la morale et de la philosophie de la droite. Voilà. Et c'est vrai que je suis profondément dans l'énergie, dans l'initiative, dans le, j'aime beaucoup ça, dans le risque, mais c'est mon affaire. Voilà. J'assume.
Et puis ça vous passionne.
Ça me passionne et je veux survivre.
Et vous programmez des spectacles qu'on ne voit pas ailleurs, avec des jeunes à qui vous donnez votre chance.
Oui, plutôt.
Parce que comme pour le journal...
Comme j'ai fait, on est l'homme d'une chose. Il faut réduire, il faut simplifier. Je connais mes qualités, je connais mes défauts, je fais avec les uns et avec les autres. Ben voilà, c'est exactement, vous avez tout compris. Bien sûr, ça m'excite, ça m'amuse. Je retrouve dans le théâtre la même chaleur humaine que j'ai connue dans la presse. J'adore les jeunes que je trouve parfois insuffisants, que je trouve souvent cons, mais je trouve aussi les vieux qui sont très très souvent cons. Moi-même, je me trouve très souvent con. Vous trouvez que je déraille sans doute.
Pas du tout.
Mais je m'assume, j'aime la vie et j'aime la jouissance de la vie et je plains beaucoup les gens qui n'ont pas les moyens d'assumer ces exigences-là.
Oui, exigence et beaucoup, beaucoup de travail. Et ce petit théâtre, c'est un théâtre de poche, effectivement, il y a plus petit que vous. J'ai trouvé dans Paris la Petite Loge, je ne sais pas si vous connaissez.
Combien de...
25 places.
Oui, c'est encore plus petit que la Huchette.
Voilà, et il y a le plus petit théâtre du monde, apparemment, le plus petit théâtre italien du monde, c'est en Italie, ça s'appelle, c'est à Castello de Vibio, en Italie, ça s'appelle le Théâtre de la Concorde, c'est un théâtre italien qui fait 99 places, et Gina Lollobrigida, à ses débuts, est passée dans ce théâtre.
Oui.
C'est un théâtre à voir aussi. Vous n'avez pas le plus petit théâtre de Paris, au contraire.
Non,
ni du monde.
Je suis désolé.
Non, c'est tout à votre honneur. Alors justement, programmer un théâtre, ça veut dire en même temps suivre les autres spectacles, faire des auditions, trouver des jeunes. Comment vous faites, Philippe Tesson?
Mais j'y passe mes journées. Et puis les nuits, je fais un peu le métier de journaliste pour créer des papiers. Et puis voilà. Ou pour venir vous voir. Tout ça, important de venir vous voir. Tout ça, ce sont mes journées. J'ai une activité de. Je travaille pas 35 heures, quoi. Mais le travail que je fais est tellement merveilleux, comme le vôtre d'ailleurs, que finalement, on fait un sacrifice qui est une joie.
Oui, mais en même temps, c'est
ça d'ailleurs nos métiers, c'est les sacrifices joyeux.
On fait de plus en plus. On a de plus en plus de difficultés parce que le théâtre aujourd'hui, on dit ça marche moins bien, les gens vont moins bien dans les salles.
Non,
souvent
la fréquentation est chaque année en hausse par rapport à l'année précédente, des petites hausses. Il y a une constante, en tout cas, de la fréquentation théâtrale. Oui. Non, il y a une curiosité. C'est très rassurant, d'ailleurs. Ce pays n'est pas ce qu'on croit. Cette société, cette évolution n'est pas très précisément celle qu'on dit qu'elle est. On ne peut pas dire que la France se déculture. Voilà, la culture prend d'autres visages. Mais les livres marchent. L'édition ne marche pas. Mais c'est le problème français. Voilà, il y a une espérance extraordinaire. Les qualités françaises ne sont pas dévaluées par rapport à ce qu'elles étaient. C'est un système dont les politiques sont absolument responsables. Ils ont entretenu par un assistanat démagogique inadmissible, ils ont entretenu une léthargie dont on va sortir. C'est très sensible depuis quelque temps. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, le public veut vraiment en sortir.
Mais
et les Français veulent en sortir.
Absolument, les Français en ont absolument marre. Les politiques croient qu'ils ont marre de ceci ou de cela, de la justice, de l'égalité. En fait, c'est pas du tout. Ils en ont marre demain. Ils en ont marre. Les Français en ont marre des politiques. C'est pourquoi ils ont choisi un mec qui sort de on ne sait pas très bien où. Et on va voir ce que ça va donner. Mais il y a une expérience à tenter. Voilà.
Des expériences vous en tentez et l'une des plus récentes aussi, c'est une maison d'édition, l'Avant-Scène. Théâtre. Alors là, vous éditez des textes de théâtre, ce qui est aussi un pari totalement fou, pour que ces textes restent, car personne ne le fait à part vous, Philippe Tesson.
Que quoi ?
Éditer des textes de théâtre comme ça, des pièces de théâtre.
Il y a encore 2-3 maisons.
Oui, il y a la librairie théâtrale, mais vous, c'est votre passion. Vous avez repris cette maison l'avant-scène, qui était une maison qui était en...
J'aime beaucoup le théâtre. Je regrette qu'on ait l'enseignement, j'espère toujours que ça arrivera un jour, que l'enseignement n'ait pas pris en compte à son service le théâtre. Je trouve que le théâtre est une méthode d'éducation extraordinaire, dont les enfants sont d'ailleurs très très friands, à condition évidemment qu'on les emmerde pas avec un théâtre à la 1930, que vous connaissez comment.
Et est-ce qu'on peut être à la fois critique et directeur de théâtre, Philippe Tesson?
On m'a toujours dit que c'était pas possible.
Oui.
Mais je l'ai fait quand même.
Dès que c'est pas possible, vous le faites.
Donc j'irai quand même pas le choix, je suis pas complètement tapé. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant quelquefois. J'ai dit des pièces qui m'arrivent de critiquer. Mais j'essaie de le faire, je le fais. Et je n'ai pas eu trop d'ennuis jusqu'à présent. Je crois qu'on manque beaucoup d'audace. Voilà. Et j'ai été élevé, moi, il faut dire que j'ai été élevé dans ce culte. J'ai été élevé par des gens, par des parents qui ne m'ont jamais dissuadé de prendre le risque et qui eux-mêmes le prenaient.
Et vous continuerez à prendre des risques ?
J'ai élevé mes enfants comme ça.
Voilà. Et vous-même, vous allez continuer à prendre des risques ?
Je continuerai
le plus longtemps possible.
Mais jusqu'à ce que la chance physique que j'ai eue, qui est quand même la chance suprême, qui est la vôtre aussi, parce que vous êtes encore bien constitué, jusqu'à la chance la malchance m'ait été épargnée. Voilà, c'est très important. Finalement, on doit dire, un type normal ou une femme normalement constituée, qui a une très bonne santé, ne devrait pas hésiter un instant à prendre les risques les plus insensés qui s'offrent à lui.
Eh bien, continuez en tout cas ce cabaret, c'est du 26 mai au 1er juillet, donc au Poche Théâtre, votre théâtre. C'est Colette et l'amour, un cabaret littéraire le vendredi et le samedi à 20h30. Il y a des spectacles tous les autres jours de la semaine. Et puis continuez, Philippe Tesson, à être comme ça, à être passionnant et passionné. On a besoin de vous et on vous en remercie.
Merci beaucoup d'avoir ici.
Merci encore, Philippe Tesson, et à demain pour d'autres Clés d'une vie.